Et on va continuer à évoquer cette élection au Brésil, donc le choix des électeurs brésiliens qui ont installé à la tête du pays Jair Bolsonaro avec 57,7% des voix, un candidat d'extrême droite devenu président face à Fernando Haddad. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Olivier Daben. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po. Et tout d'abord, une question, il ne s'agit pas d'une surprise puisque depuis le premier tour, on voyait qu'il était malgré tout extrêmement improbable que ce candidat perde. Mais si on remonte à quelques mois, s'agit-il d'une surprise selon vous, Olivier Daben ?
Écoutez, oui, bien sûr, si on remonte il y a quelques mois en arrière, il y a un an en arrière, c'est une énorme surprise. On était tous à rigoler, comme l'a dit votre chroniqueur tout à l'heure, de cette candidature il y a un an. Personne ne la prenait au sérieux. Et puis finalement, elle a enflé, si vous voulez. Elle a finalement rallié beaucoup de supporters à droite, à gauche, surtout à droite au Brésil. Et effectivement, à l'issue du premier tour, il faisait plus de doute que ça devenait mission impossible pour le candidat de gauche de remonter sur la candidature d'extrême droite. Donc c'est un énorme coup sur la tête. J'ai une pensée ce matin pour tous mes collègues au Brésil qui rentrent en résistance. C'est un peu déjà ce qu'on avait vu avec Trump et en Turquie. C'est un jour bien triste pour la démocratie au Brésil de voir effectivement revenir un nostalgique de la dictature au pouvoir légalement, avec beaucoup, sans aucune fraude. Le suffrage universel a parlé.
Le Monde dit de lui parlementaire méprisé par ses pairs, réputé pour ses outrances et sa vulgarité. C'est cela, Jair
Bolsonaro ?
Oui,
c'est ça. Pendant 28 ans, il a été isolé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'a jamais été corrompu. Personne ne s'intéressait à lui. Les entreprises n'avaient pas à lui offrir de l'argent pour qu'il gagne parce qu'il était totalement insignifiant. Il a fait des propositions de loi qui ne sont jamais passées. Il y a juste deux ou trois projets qui ont pu... Quelqu'un d'absolument insignifiant, mais qui était quand même connu par sa radicalité, par ses déclarations incendiaires. Mais personne ne le prenait au sérieux.
Bon, alors, au moins est-il honnête ?
Absolument, oui. Il n'a jamais caché ses convictions profondes. Il n'a jamais caché qu'il était
honnête
de la dictature.
Du point de vue de sa sincérité, mais aussi, est-ce que vous êtes certain qu'il n'est pas corrompu ?
Non, on n'est pas certain. Bon, il ne l'a pas été dans le passé, ça c'est sûr, parce qu'il était insignifiant, tout simplement. Il l'a peut-être été pendant la campagne, ça c'est plus que probable, puisque le journal Folha de São Paulo a dévoilé qu'il avait payé des entreprises pour diffuser des fake news. Donc oui, il y a déjà un procès qui est en cours, en quelque sorte. Donc oui, on va peut-être trouver qu'il a eu des connivences avec le monde des affaires pendant la campagne, mais auparavant, pendant sa carrière de parlementaire, vraisemblablement non.
Est-ce que Fernando Haddad, donc l'autre candidat issu du Parti des Travailleurs, était un si mauvais candidat que cela ? Autrement dit, s'agit-il d'un vote d'adhésion, d'un vote de rejet, Olivier Daben ?
Non, c'est essentiellement un vote de rejet. Fernando Haddad était un bon candidat, mais bon, il était le candidat du PT et à ce titre, il était détesté, pas pour lui, parce qu'après tout, il était peu connu. Il a été maire de Sao Paulo. Et à mon avis, d'ailleurs, il a été un bon maire, mais il a quand même pas réussi à se faire réélire. Il a perdu assez sèchement en vue d'un deuxième mandat. Mais en dehors de Sao Paulo, il n'était pas très très connu. Il a réussi à se faire connaître pendant la campagne, mais il a surtout réussi à se faire connaître comme étant celui qui avait été désigné par Lula. Et ça a suffi à le discréditer pour beaucoup, parce que s'est développé au Brésil depuis quelque temps une haine viscérale chez beaucoup d'électeurs du PT. En raison principalement des affaires de corruption qui se sont focalisées sur ce parti politique.
Et oui, et lorsque l'on voit aujourd'hui ce résultat, Olivier Daben, on se demande finalement qu'est-ce qui a permis une telle élection ? Est-ce que c'est la déconfiture d'un système politique ? Puisqu'il faut revenir quelques années en arrière, Lula a été présenté comme un véritable espoir. Il y avait donc de nombreuses possibilités pour le Brésil avec ce plan de sortir donc la totalité de la population de la pauvreté. Qu'est-ce qui a cloché ?
Il y a eu une convergence ces dernières années. C'est assez récent finalement, je dirais, dans les 4-5 dernières années, depuis des manifestations en 2013 de la part d'étudiants qui réclamaient une baisse des tarifs des transports publics et des manifestations qui ont été récupérées par la droite. Donc une mauvaise humeur de l'opinion publique, plus une crise économique. Mais c'est surtout le facteur de la corruption. Il y a des procès qui sont en cours depuis 2014. Et qui ont dévoilé des schémas de corruption. Et les Brésiliens en veulent au PT en quelque sorte d'avoir institutionnalisé la corruption. Alors même que c'est pas du tout le parti le plus atteint par la corruption. Quand on fait des comparaisons, d'autres partis politiques ont été éclaboussés de façon plus sérieuse, mais la justice est un petit peu centrée sur le PT, et sur la personne de Lula en particulier.
Lequel était véritablement corrompu ?
On n'a jamais pu prouver qu'à titre personnel, il était corrompu. Alors, on se doute bien qu'il a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Mais à titre personnel, il est en prison aujourd'hui, alors même qu'il a été juste mentionné par quelqu'un qui voulait sauver sa peau. Vous savez, le système brésilien prévoit des réductions de peine si vous collaborez avec la justice. Mais il n'y a pas de preuves.
Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Dans une cité balnéaire.
On n'a jamais pu prouver qu'il était à lui, ce qui est quand même embêtant.
Donc mais sa femme y avait fait des travaux.
Alors, oui, mais il n'y a pas de titre de propriété, on ne sait pas. Bon, enfin, il faut des preuves quand même pour accuser quelqu'un.
Non, mais bien entendu des preuves, mais lorsque quelqu'un de proche, en l'occurrence votre épouse, fait des travaux dans un appartement, est-ce que ça n'est pas...
Sans doute, mais si vous voulez, au regard de ce qu'on connaît des autres politiques dans ce pays, c'est vraiment dérisoire. Donc il y a eu une certaine politisation de la justice qui s'est acharnée contre le PT, ça c'est indéniable, amplifiée par les médias qui en ont profité pour se débarrasser de Lula parce qu'il est imbattable lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Et donc c'est développé dans le pays une certaine haine, vraiment une haine, j'ai jamais vu un niveau de haine pareil dans ce pays à l'égard du PT. Et donc, si vous voulez, c'est un climat d'une très grande polarisation où tout s'est accumulé contre le parti. Donc, n'importe quel candidat, même peut-être Lula, d'ailleurs, in fine, aurait perdu s'il avait pu maintenir sa candidature jusqu'au bout.
Comment expliquer ce poids de la corruption, Olivier Dabenne ? Qu'est-ce qui justifie qu'au Brésil, la classe politique soit presque intégralement corrompue ?
Il y a un problème de fonctionnement du système politique dans ce pays, si vous voulez, qui était un problème ancien. Les militaires, dans les années 60, avaient déjà essayé de faire en sorte que le Brésil devienne, au plan politique, un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire un système avec deux grands partis politiques relativement modérés et qui alternent au pouvoir. Ils l'avaient fait de façon artificielle, par la voie autoritaire, mais quand le pays est revenu à la démocratie au milieu des années 80, il y a eu une explosion du nombre de partis politiques. Aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a 30 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale au Brésil. Donc c'est difficile à gouverner le Brésil. Il faut passer des alliances sans arrêt et il faut surtout consolider ces alliances. Et la façon qu'a trouvé le Parti des Travailleurs pendant la première période de Lula de préserver ces alliances, c'est tout simplement de payer, de rémunérer certains députés pour qu'ils restent fidèles à l'alliance et qu'ils continuent à voter les réformes engagées par le Parti des Travailleurs. Donc je crois qu'au plus profond de la problématique brésilienne, il y a vraiment un problème politique, un problème de multipartisme excessif. Une vie politique est complètement fragmentée. Vous avez beaucoup de petits partis politiques et aucun grand parti politique qui pourrait assurer un peu de stabilité politique. Donc il faut trouver des succédanés, il faut trouver des moyens. Et malheureusement, ces moyens, ça consiste bien souvent à verser des dessous de table, à financer des campagnes pour s'assurer la gouvernabilité du pays.
Pourquoi la droite modérée, la droite classique n'en a-t-elle pas profité ? Puisque, après tout, entre le Parti des Travailleurs et Jair Bolsonaro, il y avait d'autres solutions politiques, Olivier Dabenne ?
Oui, mais la droite a été laminée. Un parti comme le PSDB, le Parti de la Social-Démocratie, qui a gouverné dans les années 90, s'est retrouvé avec un score ridicule à l'élection présidentielle. L'extrême droite a complètement siphonné les voix de la droite classique, la droite parlementaire, la droite républicaine et démocratique. Et c'est, je crois, à la hauteur. La radicalité, si vous voulez, de Jair Bolsonaro est proportionnelle au dégoût qu'ont les Brésiliens pour la vie politique en général, toute la classe politique. Et donc tous les partis politiques qui ont gouverné depuis le retour à la démocratie ont été laminés par cette élection. D'ailleurs, le Parti des Travailleurs, pas tant que ça. Ça reste le premier groupe parlementaire. Ils ont élu 4 gouverneurs dans ces élections-là. Donc il reste un parti fort, un des partis les plus forts, le parti le plus fort au Parlement. Donc, par contre, la droite classique, elle, est devenue absolument inexistante.
Quelle est la tradition d'extrême droite au Brésil ? Puisque on l'a entendu dans l'une des phrases qui a le plus fait scandale, Jair Bolsonaro expliquait que le tort de la dictature était d'avoir torturé et non pas tué. C'est probablement la phrase qui a été la plus commentée au cours de cette élection. Quelle a été la dictature brésilienne et comment aujourd'hui expliquer que l'on puisse se revendiquer de cette dictature en devenant président donc du Brésil ?
Il y a un certain nombre d'hommes politiques, comme Jair Bolsonaro donc, qui entretiennent une vision totalement erronée de la dictature comme étant une période où il y avait de la croissance économique, où on pouvait marcher tranquillement dans la rue parce qu'il n'y avait pas d'insécurité, où il n'y avait pas de corruption parce qu'il y avait un gouvernement qui était ferme et qui luttait efficacement contre la corruption. Bref, une période un petit peu dorée. Alors évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Il y a eu
qu'est-ce qui s'est produit ? Rappelez-nous, dites-nous ce qu'a été la dictature brésilienne.
Alors la dictature brésilienne, elle est peut-être moins violente. Elle a été moins violente que certaines autres dictatures, par exemple en Argentine. Mais c'est une dictature qui a tué, c'est une dictature qui a torturé, c'est une dictature qui a exilé, c'est une dictature qui a effrayé et qui a intimidé la population. Donc c'est un régime dur, si vous voulez, qui ne respectait pas les droits de l'homme et qui s'est aligné sur ce qui se faisait de pire en Amérique latine dans ces années de guerre froide, hein, au nom de, si vous voulez, l'élimination de la gauche, l'élimination de tout ce qui est progressiste dans le pays, dans tous les secteurs d'activité, la culture, l'éducation, le syndicalisme, évidemment, etc. Donc, il y a cette mémoire qui est totalement déformée, entretenue par ce personnage-là, et qui souhaite donc en revenir à ces années de croissance économique dans la tranquillité et dans l'ordre, comme c'était supposé le cas dans les années 60-70.
Mais enfin, ce monsieur a été élu, Jair Bolsonaro, cela signifie que cette dictature n'est pas si impopulaire que cela. Alors évidemment, les démocrates n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais cette dictature, elle a régné sur le Brésil de 1964 à 1985, ce qui signifie que beaucoup de Brésiliens en ont encore, non pas des souvenirs, mais l'ont vécu. Cette dictature.
Oui, beaucoup ne l'ont pas vécu aussi, hein, parce que c'est quand même un électorat qui est jeune, c'est un pays qui est jeune, hein, le Brésil. Donc, oui, mais si vous voulez, dans cette élection, c'est pas toujours très utile de chercher des arguments rationnels pour expliquer le comportement électoral des Brésiliens. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait tort d'imaginer que tous les électeurs, 55% d'électeurs qui ont voté pour Jair Bolsonaro, ont vraiment voté pour un retour à la dictature. C'est un vote qui est assez irrationnel d'une certaine façon. Il y a un vote de valeur aussi qui est important, peut-être devrait-on en parler. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas un vote qui consciemment cherche à faire revenir une période tirée de l'histoire et faire revenir une ambiance qui était celle d'un gouvernement autoritaire. Hein. Il y a clairement une grande partie de l'électorat qui a voulu simplement rejeter, ne plus permettre au Parti des travailleurs d'être au pouvoir. Et puis, il y a quand même un certain nombre d'autres valeurs. Ce n'est pas simplement la nostalgie de la dictature. Hein. Jair Bolsonaro, c'est à la fois un mélange, un néolibéral, un néoconservateur, un néopopuliste. Ça fait beaucoup de néo, tout ça. Néo, si vous voulez. Néolibéral en matière économique, néoconservateur au plan des valeurs. Et on a évoqué il y a un instant les liens avec les églises évangéliques. Mais aussi un néopopuliste autoritaire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui clairement pourrait franchir la ligne rouge en matière de démocratie et faire verser le Brésil dans quelque chose qui ressemblerait à de l'autoritarisme électoral ou une démocratie illibérale qui respecte peu les droits de l'homme, etc. Donc, et ça, il y a un certain nombre de Brésiliens qui le soutiennent. Il ne faut pas simplement toujours penser qu'ils ont été manipulés par les fake news et qu'ils se sont trompés. Il y a un soutien à un certain nombre de valeurs et c'est important.
Et donc ce rapport aux valeurs, s'il fallait le résumer, alors on voit que l'hostilité à la gauche, parfois même la haine de la gauche, est un élément central dans le discours de Jair Bolsonaro. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est la gauche, autrement dit le Parti des travailleurs ? Est-ce que c'est la gauche, c'est-à-dire un certain rapport au capitalisme ? Qu'est-ce qu'il vise ?
Oui, c'est essentiellement le Parti des travailleurs. Hein. Cette exaspération de la droite qui n'arrivait pas ces dernières années à gagner des élections. Enfin, le Parti des travailleurs a gagné 4 élections présidentielles consécutives. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Brésil. Et quand la droite a vu que Lula caracolait en tête dans les sondages, il était pris de panique. Hein. Donc, si vous voulez, les électeurs se sont massivement alignés sur des positions radicales, extrêmes, pour faire barrage au parti des travailleurs. C'est essentiellement ça, hein, c'est la figure de Lula, c'est le parti des travailleurs. Alors même que, si, encore une fois, si on veut regarder cette période de Lula avec un peu de recul, on se rendra compte que c'est une période bénie. C'était un âge d'or.
Pourquoi ?
Bah parce que il y avait une croissance économique impressionnante. Ça a correspondu. Lula a eu de la chance. Hein. Ça a correspondu à un boom des exportations du Brésil qui a généré de la croissance et qui a permis au Parti des travailleurs de développer des politiques redistributives assez généreuses et de faire sortir de la pauvreté des millions de personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, les milieux d'affaires étaient très contents de Lula, le soutenaient, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait de la redistribution. Sortir les gens de la pauvreté, ça apporte des bénéfices économiques aussi, c'est pas simplement une question sociale, si vous voulez. Donc tout ça, aujourd'hui, est oublié, et on ne retient de la période Lula, finalement, que ces affaires de corruption et auquel il faudrait ajouter aussi évidemment des questions de sécurité dans le pays. C'est quand même assez important, c'est-à-dire le Brésil est quand même un pays où vous avez un homicide toutes les 8 minutes à peu près. Hein. C'est quand même c'est plus que le conflit israélo-palestinien. Hein. Donc ça aussi, c'est une donnée
depuis
qui est importante.
Depuis le début, puisqu'il a fait 55 000 morts, ouais. Le conflit israélo-palestinien, on en est à plus de 60 000 par an au Brésil. Donc là, effectivement, lorsque vous évoquez cette situation politique au Brésil, il ne faut quand même pas oublier Dilma Rousseff, qui a été présidente après Lula et dont la présidence a été probablement moins concluante que celle
absolument,
de Lula.
Absolument, absolument. Oui, oui. Ça fait partie d'ailleurs des explications du retournement de l'opinion publique à l'égard du PT. C'est-à-dire que la succession de Lula a été compliquée et Dilma Rousseff a pas eu de chance. Alors si on parle de conjoncture économique, alors elle, pour le coup, elle a dû faire face à la crise économique, un retournement de conjoncture spectaculaire qui n'a plus permis au PT de poursuivre dans la voie des politiques redistributives, si ce n'est au prix d'un endettement considérable. Donc aujourd'hui, la situation économique du pays est difficile et les Brésiliens veulent en revenir à ces années de croissance, à ces années fastes, à ces années du boom de la consommation. Et ils estiment qu'ils ne pourront pas y arriver, qu'ils ne pouvaient pas y arriver avec le PT.
Et sous Dilma Rousseff, la grogne sociale était quand même beaucoup plus importante.
Oui, elle était importante. Il y a eu des manifestations, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et là, le PT n'a pas très bien réagi. C'est-à-dire le PT a eu du mal à comprendre qu'on pouvait manifester contre lui, en quelque sorte, parce qu'il a toujours considéré que les mouvements sociaux étaient avec lui et que donc ne pouvait pas en être autrement. Et d'une certaine façon, ils ont perdu en 2013, à l'occasion des manifestations, un certain lien avec la jeunesse et avec la rue. Qui a été, si vous voulez, un facteur important de récupération de la droite.
Olivier Daben, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer ces élections au Brésil, lesquelles ont été remportées par le candidat d'extrême droite. Vous serez rejoint par la journaliste franco-brésilienne Dani Legras. On évoquera ce qui peut se passer maintenant. Faut-il penser ce président élu Jair Bolsonaro en termes donc de populiste, de trumpiste, bref, comment le qualifier et comment imaginer ce qui va suivre. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
Et désormais de la politique, mais de la politique brésilienne à 8h21 sur France Culture. Jair Bolsonaro, vous le savez, est le nouveau président du Brésil. Il a été élu avec près de 56% des suffrages. Les Brésiliens ont donc choisi de tourner la page du Parti des Travailleurs auquel appartenaient Lula et Dilma Rousseff, les deux derniers présidents. Plus qu'un tournant, l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir a des allures de tremblement de terre. Politique, nous sommes en compagnie d'Olivier Daben. Olivier Daben, vous êtes professeur à Sciences Po et président de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous recevons une journaliste franco-brésilienne, Dani Legras. Bonjour Dani Legras.
Bonjour,
vous revenez du Brésil, quelle était la situation?
Alors je m'attendais, Guillaume, à trouver une ville un peu plongée dans une tension palpable, etc. Et pas du tout en fait, j'ai beaucoup parlé, je suis restée pendant une petite semaine et j'ai tenu vraiment à discuter avec les gens. Et je sentais que les gens étaient assez d'accord en fait avec la politique proposée par Bolsonaro. Il faut pas oublier que la population brésilienne est un petit peu conservatrice quand même. Et j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt dans une espèce de cohérence. On a évoqué ça tout à l'heure, il y a un antipétisme totalement irrationnel. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que cette campagne, elle a été marquée par les sauts de la victimisation. Il y a deux storytelling qui ont été racontés aux gens à l'infini. C'est Lula en prison, emprisonné, victime. Ça, c'était les pétistes, ceux qui sont pour les PT. Ils se disaient, c'est une victime politique. Et Jair Bolsonaro, qui a pris un coup de couteau pendant la campagne, victime aussi. Quand on considère que les candidats numéro un, est une victime, ça part déjà d'un mauvais calcul, vous voyez. Et donc, voilà, j'ai trouvé les cariocas, donc les habitants des Rio, tout à fait serrants. Évidemment, je parle des beaux quartiers, hein, Guillaume. Je parle pas des favelas, etc. Il faut pas oublier aussi que les cariocas sont très, très, très atteints par les problèmes de la violence.
Justement, lorsqu'on parle de la violence, comment elle se traduit? Alors, on évoquait ces chiffres qui sont des chiffres tout à fait impressionnants. Donc, plus de 60 000 morts par an. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cette violence est partout? Comment elle se traduit, Dany Legras?
Alors, moi, j'étais pas dans une capitale, j'habitais dans une petite ville, et la consigne, ça fait déjà des années et des années, c'était, alors, quand tu passes dans un feu rouge, la nuit, si tu peux, tu ne t'arrêtes pas. Donc, la violence, c'est quelque chose qui est très intériorisé chez nous depuis toujours. Il m'a fallu des années à Paris. Je ne sais pas encore marcher sans tenir mon sac très près de moi. Aujourd'hui, à Rio, j'ai beaucoup parlé avec des chauffeurs des taxis qui m'ont dit que c'est les plus grands fléaux. Les problèmes n'est même pas l'économie pour eux. Les problèmes, c'est la violence qui envahit tout. Cette ville qui est si belle, qui t'enveloppe d'une façon si agréable, est complètement, complètement dévastée par la violence. Et je pense qu'il les calcule justement. Je pense qu'on s'aligne dans la politique de Bolsonaro, surtout parce qu'il promet, c'était un peu son mot d'ordre, il promet de finir avec ça. Alors, comment il va faire? Il ne va pas le faire déjà, à mon avis.
Olivier Dabenne, comment va-t-il faire?
Déjà, je crois qu'il faut faire une distinction entre le sentiment d'insécurité qui est effectivement très très répandu dans la population et la réalité de la violence. La réalité de la violence, c'est qu'elle atteint des hommes jeunes, noirs, pauvres, qui habitent dans des favelas et pas les gens qui roulent en voiture dans les belles avenues Copacabana, si vous voulez. Donc, il y a une distinction.
Dany Legras fait l'amour.
Pardon, Olivier, mais vous savez, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée à Rio, c'était télécharger un appli sur les balles perdues. C'est-à-dire que aujourd'hui, même dans les beaux quartiers, mais bien sûr, tous les 23 minutes, il y a un jeune noir qui meurt au Brésil. Donc ça rejoint.
Donc beaucoup victimes de balles qui viennent de la police, entre parenthèses. Non, mais là, il y a au Brésil des centres
mais
de recherche.
Mais cette violence, elle vient d'où? Est-ce que c'est la pauvreté qui la génère? Est-ce que c'est le trafic de drogue? Bref, comment l'expliquer?
C'est surtout le trafic de drogue. Ça, c'est assez établi, si vous voulez. J'allais dire qu'il y a des tas de centres de recherche qui font des études de victimologie. Ils sont très performants. On sait exactement où, à quelle heure, dans quel endroit, qui est atteint par la violence. On connaît tout ça avec beaucoup, beaucoup de précision au Brésil. Mais si vous voulez, il y a deux mondes. Il y a celui-là et puis il y a le monde de la perception. Et les gens sont absolument hystériques sur ces questions-là. Il y a pas seulement au Brésil, d'ailleurs, dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et donc, ils sont prêts, effectivement, à donner leur voix à un candidat qui va tenir le discours de la fermeté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On a l'exemple du Mexique, si vous voulez, où il y a des présidents, notamment un dernièrement, qui a déclaré la guerre au narcotrafic, etc. Bon, au final, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça n'a résolu aucun problème, voire même c'est l'inverse. C'est-à-dire, on imagine bien que Bolsonaro au Brésil, s'il favorise, si vous voulez, la répression, des politiques répressives, et s'il permet aux gens de se défendre en distribuant encore plus d'armes, ça va être encore pire. Et donc, on a du mal à imaginer. Je disais tout à l'heure, un meurtre toutes les 8 minutes au Brésil. Bon, si c'est un meurtre toutes les 3 minutes, ça va être vraiment catastrophique. Donc, on ne voit pas exactement, d'ailleurs, ce qu'ils pourraient faire d'autre. Enfin, la solution, elle ne vient certainement pas du côté des politiques répressives. On le sait depuis longtemps en Amérique latine.
Il ne faut pas oublier qu'entre ces deux tours, il y a énormément d'agressions au Brésil. Plus de 70 agressions. Il y a eu même un mort. En fait, c'est-à-dire que les pays, ils sont tellement polarisés que tous ceux qui sont PT pro-Haddad se sont fait agresser, mais vraiment de façon très très violente. Et ceux qui sont pro-Bolsonaro, ils se sentent tout à fait légitimes de perpréter des actes de violence inouïs, quoi.
Mais alors, à ce niveau de violence, on se dit qu'il doit y avoir un rapport particulier du Brésil avec la violence. Je dis ça parce que j'ai en tête l'un des livres classiques sur le Brésil, qui est le livre de Sergio Buarque de Holanda, qui est donc le père de Chico Buarque. Ce livre parle d'une notion qui est l'homme cordial. Lorsque l'on évoque l'homme cordial, on évoque à la fois un homme qui est ouvert, qui est effectivement accueillant, mais aussi une forme de brutalité. Est-ce que c'est une vieille notion en anthropologie? Est-ce que ça permet effectivement d'expliquer une partie du Brésil aujourd'hui, Dany Le Gras?
Si vous allez au Brésil, si vous allez à Rio ou dans ma ville par exemple, une toute petite ville, vous allez sentir les mêmes troubles. C'est-à-dire qu'il y a, les Brésiliens ont un sens d'hospitalité très très fort, il y a une espèce voilà, de chaleur qui nous enveloppe, et parallèlement à ça, il y a justement une espèce de brutalité dans les quotidiens, à chaque moment, si on est en voiture ou si on se dispute avec un chauffeur qui est à nos côtés, ça peut dégénérer très fort. La violence fait partie de notre pays depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose que, si j'ose dire, fait partie de notre ADN. C'est pour ça que Bolsonaro a tellement insisté dans ses discours là-dessus. Je ne sais pas si Olivier Daven est d'accord avec moi.
Est-ce que ça veut dire que, donc, Racine du Brésil, donc ce livre qui aujourd'hui date, hein, il a 80 ans, il a été publié en 1936. Est-ce que le fait de parler d'homme cordial, est-ce que l'idée selon laquelle il y aurait un rapport spécifique à la violence au Brésil est fondée ou pas?
Ça a été considéré comme un livre fondateur des sciences sociales, effectivement, et il a engendré un mythe qui est celui de la démocratie raciale, par exemple, dont a été victime Stefan Zweig, entre parenthèses, dans Brésil, Terre d'Avenir, où il explique que face à l'Europe qui est déchirée, etc., il y a le Brésil qui a trouvé la formule, si vous voulez,
un paradisiaque.
Voilà. Bon, ça fait bien longtemps que les sciences sociales brésiliennes ont démenti ce mythe, et au contraire, mettre aujourd'hui l'accent sur effectivement des rapports sociaux qui pendant longtemps étaient extrêmement durs, parce qu'il ne faut pas oublier que le Brésil a été un empire esclavagiste pendant longtemps. Ça a été un des derniers pays du monde à renoncer à l'esclavagisme. Et
quand
il reste, c'était en 1888,
juste avant
l'établissement de la République en 1889. Avant, c'était un empire esclavagiste. Et il y a des restes de ces rapports sociaux extrêmement inégalitaires et empreints de violence, notamment à l'égard des Noirs. Il faut ne pas hésiter à parler d'un certain racisme dans ce pays qui s'exprime aujourd'hui. La violence, elle est surtout contre les jeunes hommes noirs. Donc, si vous voulez, c'est pas complètement
aussi
un hasard. Oui, aussi les femmes, mais quand même, je crois que c'est à près de 90% masculin. Donc, si vous voulez, il y a des restes de cette violence initiale du Brésil du 19e siècle.
Les Brésiliens aiment dire ça, les racismes cordiales, alors que les racismes n'est jamais cordial. Je vous donne un exemple qui, pour moi, est très parlant. Pendant toute mon scolarisation, je n'ai jamais eu un collègue noir. Voilà, je pense que ça en dit long sur vraiment cette.
Ça veut dire que c'est une société qui est très divisée?
Très divisée, mais très divisée. Mais complètement. Je pense que c'est une société, c'est très triste de l'admettre, mais c'est une société homophobe, misogyne, raciste. Il faut l'admettre.
Donc pas du tout de métissage?
C'est un pays très métisse. Hein.
Alors comment justement
mais
expliquer?
Mais qu'il les vit très mal. D'où cette partie de la population métisse, noire, qui est toujours vraiment un périphérique, quoi. Et c'est ça qu'il est pété à Rio aussi à faire.
Parce que justement, Dany Le Gras, on comprend mal comment Jair Bolsonaro peut être élu alors qu'il a été ouvertement raciste, on peut dire ça?
Oui.
Alors même que le pays est évidemment multiracial.
C'est un paradoxe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il y a quand même une précision. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 31 millions de Brésiliens qui ne sont pas allés voter déjà. Pour commencer, le taux d'abstention est un taux record. Si on ajoute les votes blancs et nuls, pardon de ces précisions un petit peu techniques, mais on arrive à plus de 40 millions de Brésiliens hein, sur un électorat d'à peu près 150 millions. Ça, c'est un record depuis le retour à la démocratie. Donc ça veut quand même dire que Bolsonaro, ce n'est pas un raz-de-marée. C'est pas l'élection, c'est pas le triomphe que certains annonçaient. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans l'abstention. Et vraisemblablement, parmi ceux-là, il y a un électorat pauvre, un électorat noir, etc., qui a refusé finalement de trancher. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où vous pouvez pas simplement dire comment ça se fait qu'il ait gagné, étant donné que c'est une société raciste, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne votent pas. Hein. Donc, c'est 40 millions de gens, à titre de comparaison, à date, il a fait 47 millions de voix. C'est-à-dire, on l'avait vu d'ailleurs dans les derniers jours de campagne, dans la rue, sur la Paulista à São Paulo, essayer de convaincre les gens d'aller voter, ou pour ceux qui étaient indécis, de prendre une option pour l'un ou pour le candidat, évidemment, Haddad. Mais il a pas vraiment réussi. Hein. On voit qu'il y a eu énormément de votes blancs et nuls. Et ça traduit quand même un certain malaise.
Mais alors, Dany Le Gras, par exemple, le Monde d'aujourd'hui dit Bolsonaro, finalement, c'est la revanche du Brésilien moyen. Et il cite un observateur brésilien, lequel dit « Bolsonaro est brut, sec, il dit des gros mots, se montre agressif sur la forme, il représente le brésilien moyen qui, comme lui, s'indigne de la situation du pays. »
Mais oui, mais vous savez, Guillaume, tout mon entourage a voté pour Bolsonaro, ma maman compris. Et là, quand je lui pose la question, je dis « Mais comment ?» Toi, maman, qui était étudiante pendant la dictature, qui s'est fait un petit peu malmenée par les militaires, comment, et en tant que femme, comment tu peux voter pour quelqu'un qui ne correspond absolument pas à tes croyances? Et là, c'est toujours, il y a une espèce d'effet du genre, oui, mais tu sais, il n'est pas tout à fait comme ça, c'est juste quelqu'un qui est un peu sanguin, mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité, et nous avons vachement besoin de ça, mais surtout, nous ne voulons plus jamais du PT. C'est ça, il y a vraiment une haine anti-PT qui fait que la population moyenne aisée s'arrange. C'est une espèce d'arrangement. On ne veut pas trop savoir, on ne veut pas vraiment voir. On se dit, voilà, on va essayer.
Et alors, essayer quoi? Parce que donc aujourd'hui, évidemment, on se dit que finalement, ce monsieur n'est que le suivant sur une longue liste désormais, comportant Donald Trump, Viktor Orban, d'autres dirigeants aujourd'hui qui sont perçus comme populistes. Olivier Dabenne, est-ce que l'on peut imaginer quelles sont les décisions qu'il va prendre et celles avec lesquelles il pourrait transiger? Après tout, peut-être que son programme sera suivi en partie uniquement.
D'abord, il faut commencer par dire qu'il n'a pas de programme. Il n'a pas de programme.
Bon, il en a un, je crois qu'il a un geste des mains assez significatif.
Oui,
donc,
effectivement, il a un geste qui mime un pistolet. Il a eu des déclarations.
Multiplier les ventes d'armes à feu.
Donc, sur le plan de la sécurité, on voit bien quelle est sa solution. Plus de répression, permettre aux gens de se défendre, un peu à la Trump.
Bon, c'est un programme.
Ça, c'est un programme. La grande inconnue, c'est plutôt au plan économique. Il est le produit de la crise économique, indiscutablement. Il s'est choisi comme principal conseiller un ultralibéral, un néolibéral, la fameuse.
C'est un autre programme. Il veut tout privatiser.
Oui, alors ça, ce qui est quand même assez étrange, c'est que Bolsonaro, dans les années 90, il s'opposait aux privatisations. Et les militaires qui le soutiennent n'ont jamais été des néolibéraux au Brésil. Le seul pays où on a eu ce mélange militaire-autoritaire-néolibéral, c'est le Chili. Bon, il se trouve que Guedes, le conseiller économique, est un admirateur du modèle chilien et qu'il va souhaiter essayer de
l'importer. Vous voyez, c'est un programme tout ça.
Non, le problème, c'est la cohérence. C'est-à-dire, on voit mal comment cette tendance à vouloir privatiser... les militaires vont laisser faire. C'est impossible d'imaginer ça. Les militaires ont toujours été en faveur d'un rôle important de l'État dans le développement économique au Brésil. Il y a des grandes entreprises publiques qui représentent ça et on a du mal à imaginer comment les militaires pourraient accepter que ces entreprises soient privatisées. Donc il y a un problème de cohérence entre son passé, ses convictions profondes, les soutiens qu'il a réussi à rallier au Brésil, tout ça c'est incohérent. Donc on a un petit peu de mal à imaginer ce qui va en être dans les mois qui viennent.
Bah surtout que c'est quelqu'un de totalement incompétent, Guillaume. Il est incapable de parler d'économie. Et par ailleurs, c'est les premiers à dire « je ne suis pas capable de parler de ça, parlons avec Paulo Guedes ». Donc c'est vraiment une honte. Intellectuellement, c'est très bas. Hein. Ça laisse vraiment à désirer. Hein.
Oui, mais il y a eu des présidents qui étaient plus ou moins compétents en économie, qui ont malgré tout eu un rôle économique. Alors ça va de Ronald Reagan à d'autres présidents, même des présidents plus vénérés en France n'avaient pas forcément une représentation précise de l'économie. Je pense à François Mitterrand qui a dû suivre un cours de rattrapage. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas imaginer qu'il délègue effectivement l'économie brésilienne à un homme, alors avec les conséquences que cela aura, mais a priori, il a dit de manière assez précise qu'il voulait tout privatiser sauf les fonctions régaliennes.
Mais justement, je pense qu'il sera obligé de tout déléguer, vu que intellectuellement, mais je ne parle pas qu'il y ait de l'économie, Guillaume, il est carrément incapable de finir une phrase correctement. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un président de la République qui a du mal à parler les portugais. Il n'a pas une pensée limpide, il n'a pas de programme, il n'a rien. Il a juste ses discours haineux qui a retrouvé vraiment un public, quoi. Et un public massif.
Olivier Dabenne.
Oui, pendant la campagne, on a quand même vu le Financial Times et The Economist signaler que son programme était complètement irresponsable. Curieusement, d'ailleurs, la communauté d'affaires à Sao Paulo l'a massivement soutenu. parce que la communauté d'affaires pense qu'il va adopter des politiques favorables au marché et que donc ça va relancer l'économie brésilienne. Mais encore une fois, il y a un vrai problème de cohérence. Par exemple, un des dossiers prioritaires pour le Brésil, ça va être le dossier des retraites. Le système de retraite au Brésil est incroyablement généreux, si vous voulez, puisque vous pouvez prendre votre retraite si vous avez travaillé 35 ans. Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge, c'est 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes. Donc vous pouvez prendre votre retraite à 50 ans et toucher une pension complète. Donc c'est un système qui est en faillite. Donc il faut réformer, tout le monde le sait. Le président Temer a essayé timidement, il n'est pas arrivé parce qu'il n'était pas soutenu dans sa coalition. Là, Bolsonaro annonce comme une des mesures phares et il veut essayer de copier le modèle chilien, hein, qui est un modèle par capitalisation qui date de l'époque de Pinochet, qui avait simplement par décret décidé qu'à partir de maintenant, on changeait le système de retraite par répartition pour un système de capitalisation. Ça va être très compliqué. Il n'aura pas les soutiens parlementaires pour engager une telle réforme. On a du mal à l'imaginer. Encore une fois, 30 partis politiques représentent et son parti politique, semblant une cinquantaine de députés sur 514, ça va être très compliqué pour lui de construire des majorités pour des réformes qui sont aussi radicales.
Et oui, parce qu'en fait, là, il est aujourd'hui très minoritaire. Il y a un problème d'éclatement des partis. Oui. Et du coup, Dany Legras, sur qui pourrait-il compter pour mener sa politique?
Il aura 52 députés quand même, il a 4 sénateurs. À mon avis, il va être tout à fait obligé de faire évidemment des coalitions, etc. Mais comme tout est tellement fragmenté, nous avons du mal à envisager comment il pourra, quelle marge de manœuvre il aura et quel genre d'accord il devra faire avec les anciens partis. Je ne sais pas comment les choses vont se présenter. La seule chose que je vois, c'est que il aura, comme déjà il n'avait pas vraiment un programme très installé, je pense qu'il va naviguer comme ça, de manière complètement incertaine et à voir. Mais c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Surtout que, encore une fois, il y a cette polarisation totale et j'ai du mal à imaginer qu'à partir de janvier 2019, les choses vont se dérouler de manière sereine.
Oui, alors, Olivier Dabelle, ce qu'on peut ajouter, c'est que par le biais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se peut que son groupe parlementaire grandisse. Parce qu'il y a des petits partis politiques qui vont disparaître. Donc il pourrait passer de 50 à 90 et il serait le premier groupe parlementaire. Par ailleurs, une spécificité de la vie parlementaire brésilienne, c'est qu'il y a des groupes informels, plus ou moins occultes. On parle des 3B au Brésil.
Les bancadas. Hein,
les bancadas, alors ça veut dire il y a le groupe parlementaire qui est religieux,
BBB.
Voilà, habile, ouais. BBB. Il y a le groupe parlementaire de l'agro-business, boy, la viande en quelque sorte. Oui. Et puis il y a les balles, la sécurité. Donc ça, ce sont des groupes parlementaires qui sont invisibles en quelque sorte. Et qui peuvent, réunir plus de 200, 250 députés et qui ont un poids fondamental. Et donc, pendant la campagne, on a bien vu que ces groupes de pression, en quelque sorte, se rallient à sa candidature. Donc, il va pouvoir compter sur ces groupes informels, si vous voulez, pour certains projets de loi, mais pas pour tous. Donc, c'est ça un peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coalitions ad hoc pour certains projets. Mais s'il veut vraiment réformer, comme il le dit, vouloir le faire, il va avoir des difficultés importantes parce que, par exemple, le système des retraites ou la privatisation, par exemple, dont on parlait, ça suppose une réforme de la Constitution.
Sans parler de l'Amazonie, sans parler de l'environnement, c'est là où aussi, encore une fois, il est très, très dangereux.
Alors là aussi, il a malgré tout eu un trajet non linéaire pendant sa campagne sur l'environnement.
Il a annoncé d'emblée qu'il va faire, à l'instar de Trump, il va sortir de l'accord de Paris. Ensuite, il a parlé de l'Amazonie en disant que l'Amazonie, ça sera complètement entre les mains, justement, de ceux que des grands propriétaires terriens. Alors ça, c'est pas quelque chose que peut... C'est pas un signe de conscience écologique très, très fort. Hein.
Non, mais il a quand même dit ensuite qu'il ne sortirait plus finalement de l'accord de Paris.
Ah oui, ouais. Il a dit ça, d'accord, parce que moi je suis restée encore, peut-être que je suis trop anti-Bolsonaro.
Il est revenu en arrière. On n'a pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, Olivier Dabelle.
Il y a des problèmes de certification de qualité, c'est-à-dire s'il sort de l'accord de Paris, certaines exportations agricoles n'auraient plus de certification. Donc il a compris que ce n'était pas dans son intérêt. Cela dit, les engagements du Brésil dans l'accord de Paris, de toute façon, sont relativement modestes. Hein, donc, mais vraisemblablement, il va y avoir, si vous voulez, une déforestation croissante dans les années qui viennent, ça c'est sûr.
L'une des armes qu'il a utilisées, une arme politique, c'est le poids des religieux au Brésil. C'est important d'expliquer ce qu'il recouvre, Danilo Gras.
Ben, c'est très important et c'est pas pareil. Enfin, il est devenu évangélique et vous savez, il y a Edir Macedo, donc c'est les grands patrons des évangéliques, les grands. Et il a une chaîne
de Brésil,
télévision.
Lorsqu'on voyage au Brésil, on est frappé par ces églises monumentales. Il faut expliquer, Danilo Gras, que c'est pas du tout.
Il y a un vrai public. En fait, le catholicisme a un peu reculé. Les évangéliques sont vraiment partout depuis un très bon moment. Ils sont très présents dans les villes, dans la vie des quartiers, dans les communautés, etc. Et bien sûr, les politiciens ont bien compris que être associé à une église évangélique est quelque chose de très, 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 très bien, parce que comme ça, on peut englober beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs. Et donc, c'était pour ça qu'il est devenu évangélique. Et c'est pour ça qu'hier, il avait sa Bible, il a prié.
Voilà, il a évoqué.
Il a eu un discours rassembleur.
Il a évoqué, effectivement, la Bible. Mais alors, on comprend pas très bien, parce que par ailleurs, on peut pas dire que tout son discours ait été biblique.
Bah non, mais. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est Bolsonaro. Vous avez eu un petit aperçu du personnage. Il n'y a pas de cohérence. Donc, il a sa Bible, il
essaie de dire... Mais pourquoi les évangélistes le soutiennent-ils alors qu'il voulait nommer un acteur porno comme ministre de la Culture? Il a dit que c'était une blague, après.
Alexandre Frotte, oui. Parce que, encore une fois, les évangélistes, tout ce qu'ils veulent, c'est un homme de qui dégage un certain pouvoir, une certaine affirmation de la loi. Par exemple, je vous donne un exemple, encore une fois, qui est très parlant. J'ai un neveu qui a 23 ans et qui est évangélique. Depuis un an, il m'a dit qu'il allait voter pour Bolsonaro. Et je lui ai dit, mon chéri, pourquoi ça? Et il m'a dit, parce que nous avons besoin des repères moraux. Il a 23 ans et il a besoin des repères moraux. Voilà.
Bah, surtout avec Bolsonaro, c'est ça qui est un peu compliqué, Olivier Dabenne. Quels sont les repères moraux que cet homme peut fournir à jeune homme?
Il a réussi à se présenter comme le candidat des valeurs, c'est un néoconservatisme, hein, c'est sur le plan du mariage, sur le plan de l'avortement, etc. C'était pas joué d'avance. Hein.
Non,
je rappellerai
c'est
que
ça,
Lula en 2002 s'était déjà allié avec les évangéliques, le Parti libéral, qui lui avait fourni les 2 millions de voix qui lui avaient manqué lors de 3 candidatures précédentes où il avait perdu. Bon, la communauté évangélique a grandi considérablement. Maintenant, c'est à peu près 40 millions de Brésiliens qui est un électorat captif. C'est-à-dire, une fois que les pasteurs prêchent en disant à la fin « il faut voter pour lui », ils votent pour lui. Hein. Donc, mais bon, on a vu les valeurs, ces valeurs défendues par la gauche, par exemple au Mexique. López Obrador, il est très conservateur. Donc, l'Église évangélique, elle est un petit peu à géométrie variable au plan politique. Hein. Et c'est vrai que là, il y a eu un tournant dans la campagne où ils ont massivement décidé de se rallier à sa candidature. Et je pense que c'est une grande partie de l'explication de sa victoire aujourd'hui.
Les contre-pouvoirs, Danilo Gras, est-ce que, donc, alors on a expliqué que là, la première étape pour ce président nouvellement élu, Jair Bolsonaro, était d'avoir une majorité avec qui gouverner, c'était pas gagné. Et pour le reste, il a dit qu'il respecterait la Constitution.
Mais je pense que la gauche va renaître. Hein. Je pense que la gauche, je pense qu'il y aura une
vraie
résistance.
De toute façon, elle peut pas tomber.
Voilà. Mais je pense qu'il y aura une vraie résistance désormais. Je pense que la gauche va se réorganiser. Il faut faire un vrai mea culpa. Et je pense qu'il y aura un contre-pouvoir très important. Je pense pas que les choses vont rester comme ça.
Olivier Dabenne.
Non, par contre, il y a un vrai danger. À mon avis, la dérive autoritaire du Brésil, elle a déjà commencé, parce que Bolsonaro, c'est pas un démocrate. Quand vous définissez votre concurrent dans une élection comme un adversaire qu'il faut éliminer, c'est pas un comportement de démocrate. Et il se pourrait très bien qu'il fasse évoluer le Brésil vers quelque chose qui ressemble à un régime illibéral, autoritaire, en truquant la prochaine élection, etc., etc. Donc, il y a des inquiétudes à avoir. Sur le pays.
Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est son électorat qui se permet maintenant, qui est très décomplexé.
Désinhibé, oui, ça c'est le plus inquiétant,
voilà.
C'est sûr.
Quand on fait un tour dans les réseaux sociaux, c'est affolant, c'est terrible.